maintenant donner la parole au professeur Peter Lutrecht, qui est l'actuel directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, l'Institut de l'organisateur et l'autre de cette série de tables rondes. Le professeur Lutrecht est un nouveau professeur du département d'enseignement, c'est-à-dire jeune professeur dans le département de sciences juridiques de l'UQAM. Il a fait ses études de doctorat en droit à l'université d'Innsbruck en Autriche. Il a ensuite été professeur dans cette université. Par la suite, il a travaillé au Conseil de l'Europe où il a été responsable des droits de l'homme pour être élu en 1993 secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe. Il est venu au Canada il y a quelques années maintenant, d'abord comme professeur invité ici, ensuite il a été doyen de la faculté de droit de l'université McGill et nous avons eu le plaisir de l'amener de nouveau ici à l'UQAM pour s'occuper de l'Institut d'études internationales et pour enseigner le droit international. Il rentre tout juste du Cambodge et je pense que c'est un des thèmes dont il va nous entretenir ce soir. Je lui donne la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Doyen. Donc à moi le quatrième mouvement de ce quatuor. Et je voudrais commencer par quelques remarques générales sur la conscience, la mémoire et l'oubli, car je me souviens que je viens du pays de Sigmund Freud. Ce que je voudrais souligner, c'est que nos mémoires et nos oublis sont sélectifs. Ça vaut pour nos mémoires et nos oublis individuels, ça vaut pour les mémoires et les oublis collectifs. Mais alors, quand l'État et la raison d'État s'y mêlent, tout ça devient encore infiniment plus sélectif, pour ne pas dire manipulé. Des mémoires manipulées, des oublis manipulés. Ce soir, nous parlons de guerres oubliées. Bon, Marie-Ève a un peu contesté ça. Mais je crois qu'il y a des guerres oubliées. Peut-être parce qu'on veut les oublier. Et ma première question est de savoir pourquoi on les oublie. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Je n'en mentionnerai que deux. L'une, c'est que, comme Borges l'a écrit, la mémoire choisit ses oublis. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Et il y a beaucoup d'oublis choisis, beaucoup d'oublis délibérés, beaucoup d'oublis coupables. Et surtout, quand c'est la raison d'État qui les inspire. Mais il y a une autre raison, et nous en faisons l'expérience. Les guerres, les massacres, les crimes, les violences se bousculent. Les médias qui nous bombardent d'une information en général pas placée dans un contexte, les médias passent très vite d'une guerre à la suivante, qui fait oublier la précédente. L'auteur tchèque Milan Kundera, dans un livre qu'il a écrit il y a assez longtemps, qui s'appelle « Le rire et l'oubli », parle de ce phénomène. Bon, à l'époque, il parlait du coup de Pinochet, de l'invasion de la Tchécoslovaquie, des massacres au Bangladesh. Et il dit, en fin de compte, tout le monde a tout oublié. Et je crois qu'il y a ce phénomène d'oubli. Je voudrais mentionner des chiffres un peu sordides, mais pour les seules années 90, on dénombre dans le monde environ 40 conflits majeurs. D'ailleurs, la plupart d'entre eux à l'intérieur des frontières de pays, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas participation ou intervention étrangère. Et je crois qu'on aurait tous du mal à énumérer ne serait-ce qu'une dizaine de ces conflits. Nous avons oublié. Ce que je voudrais aussi fait remarquer, parce que je crois qu'il faut le relever, c'est que depuis 1980, presque la moitié des pays les plus pauvres du monde, qu'on appelle dans le jargon onusien les pays les moins avancés, least developed countries, presque la moitié de ces pays ont été touchés par des conflits. Presque tous les pays d'Afrique ont connu des conflits ou ont été touchés, affectés par des conflits. Mais moi, je veux maintenant vous sortir de l'Afrique pour vous emmener dans un pays qui est très loin d'ici, aux antipodes, dans le sud-est asiatique, le Cambodge. Le Cambodge qui a connu plus d'un quart de siècle de guerres, de crimes atroces, d'une violence inouïe. Il n'y a pas que la période du régime des Khmers Rouges, qui était officiellement au pouvoir pendant moins de 4 ans, de 1975 à 1979. Il y a un avant et un après. Avant, le Cambodge était, après la Seconde Guerre mondiale, un pays paisible, qui a obtenu son indépendance de manière pacifique en 1953, un des exploits de Sihanouk, qui est toujours vivant, un homme extrêmement intelligent. C'était un pays neutre au moment de la guerre du Vietnam. Et je crois qu'il y avait de bonnes raisons d'être neutre. En plus, Sihanouk était un des grands personnages du mouvement des non-alignés, conférence de Bandung, etc. Sihanouk a déplu aux États-Unis. Il l'avait dans le collimateur. Et lorsque Sihanouk était en visite officielle en 1970 en Union soviétique, il a été renversé chez lui par un coup d'État d'un général, le général Lon Nol, coup d'État qui a été fortement appuyé par les États-Unis. À peu près en même temps, ont commencé les bombardements massifs du Cambodge par les B-52 des États-Unis. Je n'entre pas dans les détails de l'histoire, je dirais tout simplement que Dear Henry, Henry Kissinger, était très mêlé à tous ces événements. Les bombardements étaient parfaitement illégaux contre un pays neutre. Même l'argument qui a été avancé de hot pursuit, de croix de suite, n'était absolument pas valable. Les États-Unis ont bombardé profondément à l'intérieur du pays, et non seulement le long de la frontière. Vous pouvez encore aujourd'hui voir les cratères, même dans la jungle. Et vous savez que les États-Unis ont pour principe de ne jamais publier des estimations, même des estimations de victimes civiles, mais les estimations les plus optimistes disent qu'environ 600 000 Cambodgiens, des civils, ont péri à la suite de ces bombardements dans un pays qui comptait à l'époque environ 8 millions d'habitants. Le coup d'État, les bombardements ont créé le chaos dans le pays. Il y avait la guerre civile. Les Khmers Rouges étaient déjà présents dans la jungle. En 1975, ils ont marché sur Phnom Penh et le régime du général Lon Nol s'est effondré comme un château de cartes. A commencé ensuite un des régimes les plus paranoïaques, les plus assassins de l'histoire. Et en moins de 4 ans, le régime de Pol Pot a éliminé physiquement entre un quart et un cinquième de la population. Là encore, il y a des chiffres horribles, mais les estimations les plus sérieuses semblent indiquer qu'entre 1 700 000 et 2 millions de Cambodgiens ont perdu la vie pendant moins de 4 ans. Il y a eu l'après Pol Pot. D'abord, un régime communiste de style vietnamien, mais pendant longtemps, le gouvernement de Phnom Penh ne contrôlait pas l'intégralité du pays. les Khmers rouges étaient encore présents, surtout à l'ouest du pays, à la frontière de la Thaïlande. Finalement, en 91, il y a eu les accords de Paris, les accords de paix. Ensuite, le pays a été administré par les Nations Unies, une des plus grandes opérations, probablement la plus grande opération des Nations Unies sur le terrain. La UNTAC, United Nations Transitional Authority for Cambodia, il y a eu une transition vers une sorte de démocratie. Il y a eu des élections, plusieurs élections depuis 1993. Les Khmers rouges, les derniers Khmers rouges, ont finalement abandonné le combat vers la fin des années 90. Donc c'est assez récent. Le Cambodge, aujourd'hui, reste un pays profondément meurtri, traumatisé, qui ne s'est pas remis de ce qui lui est arrivé. C'est vrai qu'il n'y a plus de guerre, mais toujours un haut niveau de violence. Et comme je le dis souvent, le pays souffre de quatre maux principaux. La pauvreté, c'est un des pays les plus pauvres du monde. La violence dont j'ai parlé, la corruption qui est endémique et l'absence de droits. J'ajouterai, parce que tout à l'heure on a parlé de pillage, le Cambodge est aussi un pays qui est pillé. Il y a une pratique scandaleuse de concession, d'ailleurs ça fait très colonial, et je viens de publier à Phnom Penh, il y a une dizaine de jours, un rapport sur cette pratique, les concessions dites économiques qui permettent un pillage systématique des ressources du pays et surtout de la forêt tropicale dont la destruction a déjà des conséquences écologiques extrêmement graves. Ces longues et terribles souffrances du peuple cambodgien sont-elles oubliées? Je crois très largement oubliées par l'opinion publique internationale. Mais oubliées par qui d'autre? Dan, tout à l'heure, a posé cette même question. Certainement, ces souffrances n'ont pas été oubliées par les Cambodgiens. N'importe quel Cambodgien que vous rencontrez a une histoire à raconter. Soit une histoire personnelle, soit une histoire de la famille. Et quand vous imaginez l'ampleur du désastre, c'est pas étonnant. Mais ces souffrances ont été oubliées par beaucoup de ceux qui ont une lourde responsabilité pour ce qui est arrivé. D'abord, par les dirigeants, les anciens dirigeants Khmer Rouge, qui sont tous encore en vie, sauf Pol Pot, qui est mort en 1998. Ils sont tous en vie, il n'y en a que deux qui sont détenus parce qu'ils ne se sont pas rendus au gouvernement. Les autres vivent très bien, beaucoup mieux que les Cambodgiens, beaucoup mieux que les anciennes victimes. Et eux, ils ne se souviennent de rien, ou de presque rien. Je ne sais pas si vous avez vu ce que Khieu Samphan a dit et écrit. Après tout, il était chef d'État à l'époque. Il dit qu'il n'a rien vu, qu'il se souvient de rien, qu'il y a peut-être eu quelques bavures, mais lui, il n'était pas informé. Donc, il souffre de trous de mémoire, béant. Et c'est pas Maître Vergès qui va être son avocat dans le procès qui est enfin prévu, qui va l'aider à combler ses trous de mémoire. Le procès qui va enfin avoir lieu, en principe, l'année prochaine. Mais ce qui est arrivé au Cambodge est aussi oublié par des puissances étrangères qui ont une lourde responsabilité. Les États-Unis d'Amérique, qui ont participé au coup, qui ont aidé à renverser Sihanouk, qui ont bombardé massivement le pays. Je dis parfois en anglais, c'est plus difficile à dire en français, « They pumped the Khmer Rouge into power ». Parce que les Khmers Rouges ont profité du chaos qui a été créé par le coup, par la guerre civile et par les bombardements américains. Mais ce qu'on a oublié aussi, c'est le silence scandaleux et assourdissant, je dirais, du du monde occidental, vertueux, défenseur de la démocratie et des droits de l'homme, qui n'a rien dit alors que les Khmers rouges massacraient un quart ou un cinquième de la population. Et pourquoi on n'a rien dit? Parce qu'il y avait un raisonnement qui d'ailleurs revient encore régulièrement, un raisonnement simpliste, cynique, qui est le suivant. Les Khmers rouges étaient les ennemis du principal ennemi. Le principal ennemi, c'était à l'époque l'Union soviétique. Les Khmers rouges étaient anti-soviétiques et pro-chinois. Donc on ne disait rien. Et ce raisonnement cynique, bon, il est revenu. Souvenez-vous que Bin Laden a été à un certain moment aussi l'ennemi du principal ennemi, donc l'ami des États-Unis d'Amérique. Saddam Hussein, à un moment, était l'ennemi du principal ennemi dans la région, l'Iran. Et vous avez peut-être vu cette belle photo qui date un peu, mais où on voit Rumsfeld en train de serrer la main et de faire de beaux sourires à Saddam Hussein. Ce raisonnement, malheureusement, a encore cours aujourd'hui. Il y a une autre puissance qui a oublié, c'est la Chine, qui a massivement soutenu le régime des Khmers rouges et qui d'ailleurs n'est pas chaude du tout aujourd'hui pour qu'il y ait un procès des dirigeants, parce qu'il va révéler la collusion chinoise. Tous ces oublis, à mon avis, sont des oublis délibérés, des oublis coupables. Je voudrais conclure avec une réflexion qui va au-delà du Cambodge. Je crois, et je le crois depuis longtemps, en pensant aussi à ce qui est arrivé en Europe, à une époque pas si lointaine, même pendant mon enfance, je crois que nous avons tous, et pas uniquement par rapport à ce qui nous est arrivé, un devoir de mémoire. Car une communauté sans mémoire risque d'être une communauté sans projet et sans avenir. Et ça vaut pour les petites communautés, pour les communautés nationales, mais ça vaut aussi pour la communauté internationale. D'autres qui m'ont précédé ici ont fait allusion à des poètes et ont cité des poèmes. Moi, je voudrais vous renvoyer un très beau poème de Seamus Heaney, le grand poète irlandais prix Nobel de littérature. Il a écrit un poème extraordinaire qui s'appelle « La République de la conscience ». Et avec lui, je nous invite à être citoyens et ambassadeurs, il en parle dans le poème, citoyens et ambassadeurs de la République de la conscience, et j'espère d'une conscience non fracturée. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Peter. Ce n'était pas du tout planifié, la plupart de nos exposés se terminent par de la poésie, vous voyez, c'est spontané. Écoutez, nos panélistes se sont tous exprimés, on pourrait les faire discuter un peu, mais je voudrais à ce stade-ci faire intervenir les gens de la salle, peut-être qui voudraient poser des questions sur l'un ou l'autre des exposés ou faire un commentaire en particulier. Il y a un micro qui est au milieu de la salle, donc j'invite que ceux qui voudraient prendre la parole à le faire maintenant. Je vois notre ami Pierre Jasmin et je lui donne la parole.
D'accord. Est-ce que ça marche?
Oui,
d'accord. Vraiment passionnant les quatre exposés. Ils ont quelque chose en commun. On a parlé de pillage de ressources. On n'a pas parlé d'une des causes de ces oublis sélectifs occidentaux. C'est la culpabilité de ceux qui profitent des profits engrangés par l'industrie militaire et que nous sommes tous. Et je crois que c'est ce qu'on veut faire oublier. Et parce qu'il y a des gens très riches ici grâce aux mines antipersonnelles, aux hélicoptères, aux munitions acheminées à l'Afrique pendant toutes ces années. Et Marie-Ève Desrosiers a très bien fait ressortir que 4 ans avant le génocide, dont on dit qu'il s'est fait avec des machettes, mais que 4 ans avant le génocide, les dépenses militaires ont augmenté, se sont mises à augmenter d'une façon considérable jusqu'au bombardement de l'avion présidentiel. Même chose au Cambodge, bien sûr avec les bombardements de Kissinger, qui le premier est arrivé avec cette doctrine que les États-Unis devaient exporter des armements partout à l'Iran, à l'Irak, à l'Iran du temps du Shah, ensuite à l'Irak pour contrer l'Iran, puis ensuite au Koweït pour contrer l'Irak, et que l'exportation d'armements finalement a créé beaucoup de ces conflits. Et c'est peut-être ce lien que je tenais à faire, parce que même ici au Canada, en 93, nous, les artistes pour la paix, le plus grand combat qu'on a mené, c'était contre cette subvention, ce projet de subvention. C'était pas un projet, c'était les subventions à l'exportation de produits militaires où on donnait près.